Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous continuons notre série sur le thème du pardon. Durant les premières émissions, nous avons parlé du pardon que Dieu accorde aux hommes. Mais à présent, nous réfléchissons sur le fait que Dieu nous demande aussi de pardonner à ceux qui nous ont offensés.
La dernière fois, en nous appuyant sur les écrits de l'apôtre Paul, nous avons parlé de l'importance du pardon dans l'Église. Car pardonner, c'est rechercher la paix, c'est vouloir de meilleures relations fraternelles.
Merci Yann pour ce rappel. Mais aujourd'hui, de quoi allons-nous parler?
Comme nous l'avons annoncé la dernière fois, nous allons parler d'un sujet difficile. Que faire lorsqu'un frère dans l'Église nous offense et que son offense est grave? Que faire lorsqu'une sœur dans l'Église persiste à nous faire du mal? Faut-il toujours pardonner? Jean-Marc est de retour parmi nous. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Malheureusement, c'est un fait. Les églises sont composées d'hommes et de femmes imparfaits dont les actes et les attitudes peuvent parfois faire beaucoup de mal. Que faire alors? Faut-il pardonner dans son cœur sans rien dire ou faut-il agir? Écoutons un extrait tiré de l'évangile de Matthieu qui répond parfaitement à notre question. Jésus lui-même parle et voilà ce qu'il déclare.
Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes, pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?»« Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. »
Vous venez d'écouter l'évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 22.
Ce texte nous dépeint la démarche à suivre lorsque des relations fraternelles sont brisées à cause d'une faute très grave commise. Nous constatons tout d'abord que l'objectif essentiel de cette démarche est d'arriver au pardon. Toutefois, son chemin comporte des étapes.
Et la première est celle-ci. Jésus dit « Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête à tête. » Expliquez-nous cela.
Oui, dans cette déclaration de Jésus, nous remarquons deux éléments importants qui doivent marquer notre attitude. Tout d'abord, nous devons être animés du désir de pardonner. Mais nous devons aussi vouloir venir au secours du coupable, l'aider pour qu'il prenne conscience de son péché et qu'il s'en repente. Une véritable réconciliation entre deux croyants ou deux personnes, quelles qu'elles soient, doit donc inclure ces deux attitudes, le pardon pour l'une et la repentance pour l'autre. Ainsi, si une personne nous blesse, Jésus nous encourage à nous rendre auprès d'elle pour lui expliquer le mal qu'elle nous a fait et lui faire réaliser son péché.
Je connais des personnes qui n'aimeraient pas de tout suivre une telle démarche.
Vous avez raison, Yann. Certains peuvent devenir paralysés par la peur ou l'anxiété. D'autres sont arrêtés par le ressentiment. D'autres encore sont bloqués parce qu'ils s'apitoient trop sur eux-mêmes. Mais il existe un autre danger.
Et de quel danger s'agit-il ?
Au lieu d'aller rencontrer la personne responsable de l'offense pour lui faire réaliser ce qu'elle a fait, beaucoup préfèrent tout raconter aux autres. En agissant ainsi, le risque est de tomber dans les commérages et les médisances, ce qui va nuire aux relations fraternelles dans l'Église et porter préjudice à la personne concernée. Il est vrai qu'il faut bien du courage pour aller voir une personne qui nous a fait du mal, mais pour les intérêts de tous, cette démarche est de loin la meilleure. J'ajouterai aussi qu'il est essentiel de s'adresser à cette personne avec amour et un cœur bien disposé à pardonner. La colère, comme déverser des méchancetés ou des injures, n'accomplissent en rien la justice de Dieu.
Il faut donc espérer que lors de cette rencontre en tête à tête, la personne reconnaisse sa faute, la regrette et exprime le désir de ne plus recommencer.
Oui, et si tel est le cas, la personne blessée devra alors accorder son pardon et les bonnes relations fraternelles seront à nouveau rétablies.
Malheureusement, les gens ne reconnaissent pas toujours leur faute. Et si cela est le cas, Jésus recommande une démarche supplémentaire.
C'est exact, Yann. Les hommes ont du mal à admettre leurs torts. Ils sont souvent prêts à nier leurs responsabilités, à se trouver des excuses, à se justifier ou même à se donner raison. L'orgueil devient alors un obstacle sur le chemin menant à la réconciliation. Si une telle attitude se produit, Jésus nous donne cette exhortation. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de deux ou trois témoins. Il est important de choisir des personnes reconnues pour leur sagesse et leur intégrité. Des personnes en qui les deux parties ont confiance. Leur approche neutre et leurs conseils pourront améliorer une situation conflictuelle et aider les deux parties à mieux se comprendre et à cheminer vers un objectif commun, la réconciliation qui consiste en la repentance et le pardon.
Mais une fois de plus, un tel objectif peut ne pas être atteint.
Auquel cas, Jésus recommande que la démarche de réconciliation s'élargisse pour inclure l'Église locale entière. Autrement dit, les témoins, les personnes choisies par la victime, doivent alors expliquer la situation devant tous les membres de l'Église et inviter, une fois de plus, le fautif à se repentir de ses fautes tout en l'avertissant des conséquences d'un éventuel refus.
Et si ce frère ou cette sœur refuse encore de reconnaître ses torts, que va-t-il se passer?
Jésus déclare alors, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts.
Et quel est le sens de ces paroles?
Jésus s'adressait à ses disciples dont l'origine était juive. Or les juifs, à cette époque, pouvaient priver certaines catégories de gens des privilèges liés à leur religion. Les païens, par exemple, n'avaient pas du tout le droit de participer au culte dans le temple, à moins de se faire circoncire. De plus, les juifs très stricts ne s'attablaient jamais avec les païens.
Mais comment comprendre cet enseignement de Jésus d'exclure le pécheur de l'Église?
Il existe diverses interprétations, certaines plus strictes que d'autres. Toutefois, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute personne qui refuse d'admettre ses fautes n'agit pas en véritable disciple de Jésus. Elle doit donc être privée de certains des privilèges liés à l'Église. La plupart des commentateurs sont d'accord pour que ces personnes ne participent plus, par exemple, au rituel que nous appelons la Sainte Cène ou le repas du Seigneur, la messe ou encore le partage du pain et du vin. Après tout, ce moment privilégié, qui consiste à prendre le pain et le vin, est un temps pour reconnaître ses fautes devant Dieu et recevoir son pardon. Ce temps nous met devant le sacrifice de Jésus, sa mort sur la croix et son pardon acquis pour nous. Si une personne refuse obstinément d'admettre sa culpabilité, elle n'a plus sa place dans cette commémoration de la mort de Jésus et de son pardon. D'autres commentateurs suggèrent même qu'il est du rôle de l'Église d'interdire à une telle personne d'assister au culte et qu'il ne faut plus s'attabler avec elle ni la fréquenter. À mon avis, cette vision des choses est excessive, à moins que la personne dont il est question ne sème la zizanie et crée des divisions dans l'Église.
Que diriez-vous aux personnes qui sont choquées par la décision d'exclure un de leurs membres du repas du Seigneur, entre autres?
Ces recommandations de Jésus à ses disciples de mettre une personne qui a gravement péché sur le même plan que les païens ou les collecteurs d'impôts reflètent le danger du mal et sa gravité. Le mal est actif pour détruire toute communion fraternelle. Or, au sein de l'Église, nous devons promouvoir les paroles de Jésus. Nous devons chercher à mettre en pratique l'amour et l'intégrité, la pureté et la bonté, le respect envers l'autre. Si une personne transgresse ses principes de façon choquante et grave, et sans jamais se remettre en question, il faut alors agir et obéir aux paroles du Seigneur Jésus. Demander à une personne de s'abstenir de prendre la scène ou de l'exclure de l'Église ne sont pas des décisions à prendre à la légère. Ce sont des décisions à considérer si toutes les autres tentatives pour convaincre quelqu'un de sa faute ont échoué. Cette étape ne doit pas être franchie hâtivement, mais seulement après bien des réflexions. De plus, il ne faut jamais perdre de vue l'objectif principal de cette démarche, qui est la repentance, le pardon, la réconciliation. Il faut espérer que la correction subie ramène le coupable à la raison, qu'elle le fasse réfléchir à sa situation et qu'il finisse par se repentir. Si sa repentance est sincère, l'Église devra alors accorder son pardon et accueillir cette personne comme un frère perdu qui a été retrouvé.
Mais que répondre à ceux qui affirment que cette démarche est incompatible avec l'amour de Dieu pour nous?
La Bible enseigne que reprendre et corriger une personne est aussi une expression de notre amour envers elle. L'objectif de la correction, quand elle est donnée avec un cœur aimant, est d'aider la personne à croître spirituellement et de l'encourager à ressembler davantage à Jésus. Laisser une personne s'enliser dans des péchés graves sans jamais lui en parler, c'est la priver d'une occasion de grandir dans sa foi. De plus, ceux qui ont été blessés par le pécheur ne méritent pas d'être traités injustement. Si nous fermons les yeux à leur peine, au mal qu'ils ont subi, nous les laissons ruminer leur chagrin. Une telle attitude ne reflète pas non plus l'amour de Christ pour nous. Tout parent juste et bon qui corrige son enfant ne le fait pas par méchanceté, mais pour aider son fils ou sa fille à différencier le bien du mal et le préparer à l'âge adulte. Une correction juste donnée avec amour est une expression de l'affection d'un parent envers son enfant. Bien sûr, certaines corrections sont cruelles et elles produisent plus de mal que de bien. Toutefois, toute correction sensée donnée avec amour aidera l'enfant dans ses orientations et il apprendra à mieux se comporter dans la vie.
Merci Jean-Marc pour cette illustration. À présent, comment voulez-vous conclure notre émission?
La démarche dont nous avons parlé aujourd'hui est une démarche difficile à entreprendre. Aussi, faut-il garder en vue son objectif, qui est le pardon et la réconciliation. En nous approchant de la personne qui a commis un péché grave, il est essentiel de regarder à Jésus qui nous réconcilie avec Dieu. Il est essentiel de nous souvenir de la croix, de rechercher l'humilité, d'être conscient de nos propres fautes. Nous pouvons aimer et pardonner à condition seulement de garder les yeux fixés sur Jésus.
Merci Jean-Marc pour ces leçons si importantes.
C'est ainsi que nos discussions sur le pardon se terminent. Nous remercions Jean-Marc pour sa participation enrichissante tout au long de cette série. Lors de notre prochaine émission, je vous ferai part d'une expérience personnelle où j'ai dû apprendre à pardonner. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.